Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, l'émission de théâtre radiophonique sur Radio Canu. On est très content de retrouver aujourd'hui en compagnie de Jessie, bonjour.
Bonjour.
De Pauline.
Salut.
De Charlotte.
Hello.
Et de moi-même, Delphine. Aujourd'hui, nous allons vous lire une pièce de théâtre qui s'appelle Le Porteur d'Histoire. L'auteur est Alexis Michalik. Donc, c'est une pièce très récente qui a été écrite, oh, je ne vais pas dire de bêtises, 2012, qui a été représentée pour la première fois en 2012 à Paris, au Théâtre 13. Et donc, Alexis Michalik est un acteur, metteur en scène, scénariste et écrivain de 37 ans. Sa pièce a reçu le Molière 2014 du meilleur auteur et de la meilleure mise en scène du théâtre privé. Cette pièce a été beaucoup tournée en France et a notamment joué il y a quelques mois, ce me semble, à Lyon. Quelques mots sur cette pièce, mais je vous laisserai plutôt la découvrir. C'est une pièce qui se déguste, qui fonctionne par flashback. Donc nous suivons un personnage, Martin Martin, sur plusieurs périodes de sa vie, en 1988, en 2001, qui découvre de mystérieux carnets qui nous replongent dans l'histoire avec un grand H, dans laquelle les petites histoires des personnages se mêlent. Donc, par une nuit pluvieuse au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d'imaginer que la découverte d'un carnet manuscrit va l'entraîner dans une quête vertigineuse à travers l'histoire et les continents. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce texte. Je précise juste que nous avons pris la liberté, vu que le texte est très long, de faire des coupes sur certains passages, ainsi que féminiser certains personnages, car nous n'avons qu'un seul homme dans la distribution aujourd'hui. Cette pièce étant très dense, nous avons décidé de la découper en deux parties et la suite, donc la deuxième partie, vous sera lue, je l'espère, en janvier, donc au Théâtre de la Gamelle. Bonne écoute. 1. Prologue. L'homme.
Nous allons vous raconter une histoire. Mais auparavant, nous allons nous interroger un instant sur le fait même de raconter une histoire, sur l'importance qu'on accorde à un récit et sur les frontières qui séparent la réalité de la fiction. D'abord, qu'est-ce que l'histoire, avec un grand H ? L'histoire, c'est notre mémoire commune, notre identité. C'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Pour nous tous, l'histoire est concrète, écrite, immuable. Il y a des dates ou des événements dont on est parfaitement sûr. On les a apprises à l'école ou dans un livre et on sait, on en mettrait littéralement sa main coupée, que ces dates sont exactes. Comme par exemple, Marignan
1515.
La prise de la Bastille
1789.
Christophe Colomb en Amérique
1492.
Robespierre, Galilée, Ravaillac, la guerre de Cent Ans, la guerre de Crimée, la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie. En Algérie, les Français débarquent en 1830 et repartent en 1962. 132 ans d'occupation. Et pendant 132 ans, les petits Algériens ont appris à l'école nos ancêtres les Gaulois. Souvent, presque toujours, le récit du vainqueur est celui qu'on retient. Et dans tout récit historique, il y a, comme son nom l'indique, une part de récit. Chaque historien, même s'il tâche d'être le plus intègre possible, s'inscrit dans une époque, traversée par des courants de pensée qui sont directement liés aux moyens d'information disponibles. Chaque historien est avant tout un homme. L'histoire ne peut donc pas être absolument objective. Elle est mouvante, elle évolue, s'estompe et s'enrichit. Notre identité, notre passé, tout ce qui nous définit n'est qu'un récit.
Tout notre passé est une fiction.
Ensuite, qu'est-ce qu'une histoire ? Une petite histoire. Ce sont des mots, du vent, de l'air en vibration. Ce n'est rien du tout. Prenons une religion, au hasard. Le christianisme, qui repose sur le judaïsme d'ailleurs, par l'intermédiaire de la Bible. Et qu'est-ce que la Bible, sinon le plus formidable réservoir d'histoire qui soit ? L'Arche de Noé, le Jardin d'Éden, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, la Pentecôte. Des histoires sur lesquelles s'appuie une pensée philosophique et spirituelle. Mais des histoires au nom desquelles des millions de croyants, chrétiens, protestants, musulmans ou bouddhistes se sont entretués au cours des siècles dans le seul but de défendre leur histoire. Alors je repose la question, qu'est-ce qu'une histoire ?
C'est un fait divers. Daté du 14 juin 2001, dans un grand quotidien algérien.
Une mère et sa fille disparaissent mystérieusement à Mechtalayadat.
Dans ce petit village du nord, c'est la perplexité qui règne.
Cela fait maintenant un mois que Alia Ben Mahoud, 34 ans, et sa fille Jeanne, 15 ans, sont disparues.
Le 17 mai 2001, au matin, un voisin les croise toutes les deux. Elles ne semblent pas inquiètes.
C'est la dernière fois qu'on les voit.
Le 23 mai, une commerçante passe chez elle pour livrer des courses et ne trouve personne. Elle s'inquiète et alerte l'antenne de police locale qui vient perquisitionner. Il ne trouve aucune trace de violence, aucune marque d'effraction. Les deux femmes ont disparu. De la nourriture reste dans le frigo et plus étonnant encore, la voiture d'Alia Ben Mahmoud est toujours là, tout à fait fonctionnelle.
Bonsoir.
Leur maison se trouvait isolée, à 15 km de toute autre habitation.
Et il y a quelqu'un ?
Une battue a été effectuée, sans succès.
Mechtalayadat, 2001. Entre l'homme, 45 ans. Il croise le regard de Jeanne qui va prévenir sa mère. L'homme reste seul un instant et s'approche de la bibliothèque. Il prend un livre, l'ouvre. Alia rentre dans son dos.
Bonsoir.
Oh, bonsoir madame. C'est absolument incroyable de trouver ça en plein désert, là, comme ça.
Il lui fait machinalement la bise.
Pardon, je suis navré, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé, je suis complètement perdu. J'ai laissé ma voiture, là, devant. Je roule depuis des heures.
Vous voulez une chambre ?
J'ai pris des pistes invraisemblables. Il y a des panneaux dans le mauvais sens, parfois il n'y en a pas du tout. Je veux bien une chambre, s'il vous plaît, oui.
Jeanne. Jeanne part chercher une chaise.
C'est mal indiqué.
C'est très mal indiqué. Je me suis retrouvé derrière la palmeraie, je...
Refusant la chaise de Jeanne.
Non, merci, je vais rester debout. Après des heures de voiture, ça... On est où ici, exactement ?
Mechtalayadat.
Mechtalayadat. Ah oui, non, c'est pas du tout. Ouais.
Vous avez soif ?
Non, merci.
Jeanne part chercher de l'eau.
Je m'abreuve de la contemplation de ces livres. Quelle surprise, cette bibliothèque, hein ! Et ça... Oh, ça, c'est un véritable trésor, ça.
Monte Cristo ?
Le comte de Monte Cristo. Attendre...
Et espérer.
Et c'est une édition...
Originale.
Oh, Swift ! Magnifique. Rabelais, Madame de Lafayette, elle est là. Et, oh, mais qu'est-ce que... Excusez-moi, je fais très attention, hein, je vous promets. Pardonnez-moi, c'est la première fois que j'en tiens dans mes mains, mais c'est... C'est un incunable, ça.
Oui.
C'est exactement ce qu'on appelle un incunable. Un ouvrage imprimé dans le premier siècle, qui suit l'invention de l'imprimerie. Oui, bah vous savez, bien sûr, suis-je bête. Mais d'où ça vient, ce trésor ?
Un héritage.
Un héritage. Un héritage de famille, oui, bien sûr. Vous avez des origines françaises ?
Qui n'en a pas ?
Des origines françaises. Oui, bien sûr. Votre père ?
Ma mère.
Votre mère. Votre mère, d'accord. Et c'était sa bibliothèque ?
Non, celle de ma grand-mère.
Ah, sa mère à elle, donc ?
Non, de mon père, algérien.
C'est votre grand-mère ?
Algérienne.
Algérienne, qui vous a légué cette magnifique bibliothèque.
Et la maison.
Et la maison aussi. Donc dans cette famille, tout se transmet par les femmes ?
En quelque sorte.
Et votre mari, il n'est pas là ?
Non, mon mari n'est plus là.
Pardon. Excusez-moi, je voulais pas, mais il n'est plus là. Enfin, quoi, il est mort ?
Non, il est rentré en France. Il a divorcé, ça fait 6 ans. Et quand un homme divorce en Algérie, la femme n'a droit à rien. Alors Jeanne et moi, nous sommes venus vivre ici à Mechtalayadat. C'est le seul bien qui nous reste. Mais ce n'est pas facile.
Excusez-moi, je vous écoute, hein, mais je n'ai rien mangé depuis ce matin.
On va vous préparer quelque chose.
Non, mais pas du tout, restez assise. Je me débrouille très bien. Je peux prendre les 2 tomates ?
Oui.
Peut-être 3, elles sont petites quand même. Vous inquiétez pas, hein, la cuisine, ça me connaît. C'est bien un oignon ça. Je plaisante. Et donc, vous disiez que c'est pas facile ?
Non, c'est pas facile ici quand on est une femme seule.
C'est pas facile en Algérie, d'ailleurs, quand on est une femme. Vous avez entendu parler du code de la famille ?
C'est Bouteflika.
Oui. Toute sa vie, la femme algérienne doit référer de l'autorité de son père, de son frère, de son mari, de son cousin, d'un homme. La femme est considérée comme une mineure, toute sa vie.
Vous savez, en France, jusque dans les années 50, une femme n'avait pas le droit d'avoir un chéquier.
Dans les années 50 ? Non mais en Algérie, en 2001, on en est encore au même point. Leurrée de respect apparent dans une servitude réelle, traitée en mineure pour nos biens, punie en majeure pour nos fautes.
Beaumarchais, ça c'était un féministe.
Il écrit ça en 1778 et trois siècles plus tard, c'est toujours valable ici. C'est intolérable.
Mais pourquoi vous rentrez pas en France ?
On ne veut pas rentrer en France. On ne veut pas partir. Partir, c'est renoncer. Partir, c'est abandonner. Excusez-moi. Vous me faites parler. Et vous, alors ?
Moi ? Tout le monde a une histoire. Vous, vous avez une histoire. Vous venez de me la raconter. Votre fille, sûrement, a une histoire. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie.
Racontez-nous.
Non, c'est trop long.
Ah non, mais je vous préviens, on est très mauvais public. Hein. C'est pour ça qu'on aime les livres, on les ouvre, on les ferme. Si votre histoire nous ennuie, on vous le dira.
Bon. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est seul. Cette histoire commence en France, un jour de mars 1988, en pleine forêt des Ardennes, à la nuit tombante. Il pleut depuis des heures. Et cet homme, seul, dans cette voiture, cet homme est perdu. Il ne sait pas où il est. Il ne sait plus très bien qui il est. Il sait juste une chose. Il cherche son chemin.
Forêt des Ardennes, 1988. Martin, 32 ans. Nous sommes en mars 1988. Martin est perdu dans sa voiture.
Putain, merde, quoi. Madame, ici. Oh, je cherche Linchamp, le village de Linchamp.
Vous cherchez le château ?
Quel château ? Non, je cherche Linchamp.
Le château perdu !
Non, je cherche Linchamp.
Oh ! Alors, vous allez prendre tout droit au carrefour. Vous tournez à droite. Après, vous continuez sur 3 km. Et vous arrivez à Nouzonville, hein ? Sur la place, il y a un café. Alors, vous entrez dans le café, vous demandez à la patronne. Elle vous indiquera.
Non, je cherche Linchamp. Linchamp ! Putain !
Café de Nouzonville, 1988.
On va bientôt fermer. T'es perdu ? Tu cherches le château ?
Quel château ?
Bah, t'as pas lu le routard ? C'est une légende. Un château perdu dans la forêt, habité par une princesse.
Je cherche Linchamp, le village de Linchamp.
Bon, un petit café d'abord.
Ok, un café.
T'es pas du coin, toi, hein ? T'es d'où ?
Région parisienne. Vous connaissez Linchamp ou pas ?
Bien sûr qu'on connaît Linchamp. On est de Nouzonville. Bon. Quand tu sors du café, tu vas à gauche, tu prends la deuxième à droite, tu sors de Nouzonville, et là, tu fais première à gauche, première à droite, et tu vas te retrouver à un carrefour avec une vieille grange qui a cramé. Tu verras, sur la droite, t'as la départementale qui va vers Charleville. Toi, tu prends pas ça. Toi, tu prends à gauche et tu vas tout droit sur environ 2 km. 2 km 5, ouais, 3 bornes à tout casser. Tu vas voir une forêt avec des grands chênes, tu peux pas la rater. Tu traverses. Et là, d'ailleurs, si t'as le temps, tu regarderas sous ta droite, t'as des champignons, mais gros comme ça, des cèpes, hein, et tu traverses, et en bas, tu vas arriver sur un pont qui passe au-dessus d'une... Enfin, écoute-moi bien là, parce que c'est là que tout le monde se gourre.
Bon, donc t'arrives à une espèce... Excusez-moi, vous avez le téléphone ?
Oui, j'ai le téléphone là, il est juste là, c'est à pièce. Hmm.
Martin, au café, téléphone à sa femme, Sylvie.
Oui, allô ?
Allô Sylvie, c'est moi.
Mais t'es où là ? Tu percutes que t'es pas allé chercher Justine ?
Non, mais je t'ai pas appelé parce que...
J'en peux plus de toi. Une fois, je te demande d'assurer et t'en es même pas capable.
Je sais bien que je suis perdu.
Je n'en peux plus.
Arrête.
J'en ai marre.
Arrête, c'est pas le
ça
moment.
Fait
c'est pas le moment, là, Sylvie.
Ça fait 6 ans que je te traîne comme un vieux poulet. Je n'en peux plus.
Sylvie,
j'en ai ras-le-bol.
Sylvie,
t'es
aminable.
Aminable de faire.
Tu fermes ta gueule, putain ! Sylvie !
Montez où là ?
J'en sais rien. Je suis dans un bled à Gouzainville.
Non, Nouzonville.
Oui, bref, Nouzonville. Je me suis paumé, je suis dans les Ardennes.
T'es allé voir ton père ?
Mon père est mort. On m'a appelé au boulot ce matin, j'étais au boulot, il est mort. Il a fait une crise cardiaque. C'est pour ça que j'ai pas pu aller chercher Justine. Ça fait 2 heures que je tourne en rond dans la forêt. Il pleut, j'en peux plus, là. Sylvie. Sylvie, t'es là? Allô? Allô?
Bah, si tu mets pas de pièces, ça coupe, hein, après une minute. Bon, pour Linchamp, je t'explique.
Linchamp, 1988. Il se retrouve devant la porte close. Il pleut toujours.
Monsieur Martin! Monsieur Martin, Monsieur Martin,
vous êtes bien Monsieur Martin, oui?
Oui, ouais.
Maître Favreau, on s'est eu au téléphone pour...
Ok, vous avez les clés ou pas? J'aimerais rentrer là.
Oui, j'ai les clés, mais elles sont chez moi. Et j'habite juste en face là, hein. C'est pour ça que je vous ai vu par la fenêtre. On va pas rester sous cette pluie, hein? Installez-vous. Je vais prendre votre...
Oui, ça va, merci.
Oh, qu'est-ce qui tombe, hein? Voilà, alors, un petit café?
Je viens d'en prendre un.
Bon, eh bien, toutes mes condoléances, hein, d'abord, Monsieur Martin. Nous aimions beaucoup votre père. Vous avez un frère également, un frère aîné, Henri?
Henri, oui.
Oui, Henri, il vit aux États-Unis, je crois?
Au Canada.
Au Canada, oui, c'est ça. Donc, vous avez réussi à le joindre?
Oui.
Ah bah tant mieux. J'ai bien connu votre père, hein. Nous étions voisins, vous voyez. C'était un homme charmant, un peu secret, mais on sentait un grand érudit, un grand lecteur. Il avait été journaliste, il me semble, hein, par le passé, avant de venir s'établir ici. Oh, c'était vraiment... Enfin, nous l'aimions beaucoup. Je ne sais pas quelle relation vous aviez avec lui, mais...
Je pense que vous le connaissiez mieux que moi. Est-ce que je pourrais avoir les clés de la maison? Parce que j'aimerais rentrer.
Oui, non. Alors ça ne va pas être possible avant que vous procédiez à la reconnaissance du corps à l'hôpital. Ah, Bonnie. Bonnie sur Meuse.
Vous plaisantez, là, c'est une plaisanterie.
Non, ce n'est pas une plaisanterie, c'est la procédure légale. Mais c'est à 20 km à peine. Je vous emmène, hein, si vous...
À Bonnie sur Meuse?
Mais vous avez déjà beaucoup roulé aujourd'hui, donc je vous emmène. Venez avec moi.
Hôpital Bonny-sur-Meuse, 1988.
Monsieur Martin, vous me suivez?
Je vous attends en bas.
Martin retrouve le cadavre de son père. L'infirmière sort.
Mademoiselle, vous pouvez rester.
Elle revient à ses côtés. Martin s'approche du cadavre.
Il a l'air gentil.
Il était très gentil. Tout le monde l'aimait. Comme mon frère. C'est des gens qu'on aime. Des gens qui savent parler. Moi, je sais pas parler.
Et pourquoi il est pas là, votre frère?
Henri. Il habite au Canada. Il est prof d'histoire.
Et vous?
Je suis dans la restauration. Je suis pas comme eux. Je n'ai jamais été comme eux.
Maison du père, Linchamp, 1988.
Alors voilà, le tout, ça va être de trouver la bonne. Ah, je connais pas ce trousseau, non, c'est pas ça, pas celle-ci. Bah, heureusement qu'il pleut plus, hein. Oh, écoutez, si c'est pas celle-là, je me suis trompée de trousseau. Ah, si, voilà. Voilà, suivez-moi. Oh là là là. Alors, si vous savez où la lumière, là, parce que...
Non, c'est la première fois que je viens. Mon père s'est installé ici il y a 10 ans.
Ah, attendez, bougez pas, je vais trouver. Voilà. Belle bibliothèque, hein? Alors, je savais que votre père était un grand lecteur, mais je ne soupçonnais pas un tel trésor. Oh, alors, ça c'est un beau livre, hein? Le Comte de Monte Cristo. Attendre et espérer. Vous ne l'avez pas lu?
Non, j'ai pas le temps de lire des livres.
Ah, mais c'est une magnifique édition, oh, originale en plus, et paraphée pour Adélaïde qui se reconnaîtra. Bon, voilà. Alors, en ce qui concerne le testament de monsieur votre père, je ne peux pas vous en faire lecture tout de suite, car votre frère n'est pas là. Mais je peux vous en livrer officieusement une partie du contenu, car votre père m'en avait parlé avant d'en établir la rédaction définitive. Votre père a souvent exprimé à plusieurs reprises le souhait très vif d'être inhumé ici même, à Linchamp.
Quoi?
Oui, votre père désirait être enterré à Linchamp.
À Linchamp?
À Linchamp, oui.
À Linchamp, ici.
Mais il n'y a, à ma connaissance, qu'un seul Linchamp en France.
Non, mais c'est n'importe quoi. Le caveau familial est dans le sud. Il y a un cimetière à Linchamp?
Absolument, nous avons un très joli petit cimetière. Bon, c'est un peu à l'abandon, hein. C'est un modeste cimetière.
Bien. Ouais, bien. Qui s'en occupe?
Ah, ce serait Michel.
Michel.
Michel, un personnage. Bon, bah, c'est la fossoyeuse de la commune. Hein. Elle prend également soin des tombes abandonnées. C'est une passionnée, une... Oh, bah, je vais lui dire de vous appeler.
Maison du père, Linchamp, 1988. Milieu de la nuit, Martin est réveillé par le téléphone.
Allô,
c'est Michel. Michel Le Boreux.
Hein?
Michel, c'est Michel.
Ah oui, Michel, oui, ouais, oui, Michel.
Il y a un problème pour votre père. Il y a un problème.
Ah, mais il est quelle heure, là?
Le cimetière est plein. Il est complet.
Le cimetière est complet?
C'est un petit cimetière, hein, vous savez. 50 tombes, à peine. Il n'y a plus de place.
Putain, mais je fais comment, moi? Je fais quoi?
Écoutez, j'ai une solution. Rejoignez-moi au cimetière.
Demain?
Ah non, là, tout de suite. Il pleut plus, là. C'est juste à côté de l'église.
Non.
Je vous y retrouve.
Non, hein? Mais il est quelle heure, là?
À tout de suite.
Attendez. Michel. Michel. Putain.
Cimetière, Lynchon, 1988.
Monsieur Martin. Ah, monsieur Martin. Bonsoir. Michel Le Boreux. Enchanté. On se tutoie, hein? Oh, ce que tu ressembles à ton père. Viens, c'est par là. Bonsoir, madame Bellechasse, monsieur le gendre. Ah, marche pas sur madame Bellechasse, hein. Ce cimetière, c'est comme chez moi. T'as pas peur, j'espère. Tu sais, jusqu'au 19e siècle, les cimetières, c'était des lieux de vie, hein. On faisait sécher le linge, on faisait pousser des fruits, on y dansait, on y forniquait, même. Les prostituées, elles y amenaient leurs clients. C'est ton père qui m'a appris ça. À l'époque, les vivants étaient en harmonie avec les morts. Aujourd'hui, les morts, on les respecte trop. C'est comme des pièces de musée. Ah, voilà. C'est celle-là. Elle a plus de 100 ans. C'est la plus vieille tombe du village. C'était sa préférée.
Antès.
Antès. A-N-T-E-S. C'est pas un nom du coin. Ça fait 20 ans que je travaille ici. Personne n'est jamais venu la fleurir. Qui que soit ce monsieur Antès, il a plus de descendants. Hein. Allez, on enlève la pierre tombale, on sort le cercueil et on l'enterre à côté du cimetière.
Non, Michel, on ne peut pas faire ça.
Je les connais bien, les corps. Au bout de 100 ans, c'est plus que de la poussière et des os. Il n'y a plus de place au cimetière de Lynchon. On va en faire de la place à ton père. Allez, viens, mon pote. J'ai des pelles dans la remise.
Oh, putain.
Mechtalayadat, 2001.
Comment ça? Comment ça? Ils ont déterré un cercueil en plein milieu de la nuit?
Absolument. Ils sont allés chercher des pelles, ils ont poussé la pierre tombale et ils se sont mis à pelleter. La terre était encore humide. Ils avaient froid, mais l'effort les a réchauffés. Et une heure plus tard, ils touchaient le cercueil. Un cercueil magnifique, en chêne massif, orné de poignées de bronze.
Cimetière Lynchon, 1988.
C'est bizarre, ça. Un cercueil de riche dans une tombe de pauvre.
Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On le sort ou on le laisse?
On le sort.
Oh, ils sont combien là-dedans? Michel, il y a quoi là-dedans?
C'est pas possible.
Quoi?
C'est pas possible.
Mais quoi?
C'est rempli de livres.
Des livres?
Mechtalayadat, 2001.
Des livres? Quoi des livres? Mais pourquoi des livres? Comment des livres? Et puis c'est qui cette Antès, là, celui qui est enterré, là où celui qui a mis les livres dedans?
Je n'en sais rien.
Mais comment ça, vous en savez rien?
Je n'en sais rien. C'était des livres. La tombe était libre. On a enterré mon père.
Mais les livres, ils ne les ont pas ouverts?
Mettez-vous à ma place. Mon père venait de mourir. J'étais en plein divorce, j'étais en train de creuser une tombe au milieu de la nuit, en pleine forêt des Ardennes.
Ah, attendez. Je croyais que ce n'était pas votre histoire. C'est vous, monsieur Martin? Ce type-là, là, c'est vous?
Oui, c'est moi. Mais j'étais un autre homme. J'étais perdu, j'étais tourmenté. Je savais pas qui j'étais, mais... Oui, c'est moi. Mais là, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai roulé toute la journée, alors je vais aller me coucher.
Ah non, on veut savoir la suite, hein. Mais pourquoi vous riez?
Mais parce que c'est Dumas. C'est Dumas.
Mais quel rapport avec Dumas?
Tout à l'heure, vous étiez là à dire... On est très mauvais public, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, vous êtes prêt à me déchiqueter pour savoir la suite. Et ça, c'est la règle numéro 1 du feuilleton, tel que l'a inventé Dumas. Le suspense de la page qui vous fait acheter le journal du lendemain pour avoir le chapitre suivant. Le comte de Monte Cristo, les trois mousquetaires, 20 ans après, Bragelonne...
Mais on s'en fout de Dumas, on veut savoir la suite.
D'accord, d'accord, d'accord.
Cimetière, Lynchon, 1988.
Des livres. Quoi des livres? Et pourquoi des livres? Comment des livres? C'est qui cette hantesse-là? Celui qui est enterré là? Ou celui qui a mis les livres dedans?
J'en sais rien.
Mais les livres, tu veux pas les ouvrir?
Non mais on s'en fout des livres. Mon père vient de mourir, je suis en plein divorce, je suis en train de creuser une tombe au milieu de la nuit, en pleine forêt des Ardennes, dans la boue, à espérer que la pluie se remette pas à tomber.
Mais les livres, ils ont peut-être plus de 100 ans.
Je suis pas dans les mythes et dans les histoires, moi. Hein. J'en ai rien à foutre des livres. Moi, je me lève à 6h du matin pour aller couper de la viande et quand je rentre le soir, je veux allumer la télé pour m'endormir devant parce que j'ai le dos cassé. Tu comprends? Le dos cassé.
Mais alors quoi? On les jette?
Non mais prends-les, ils sont à toi.
Ah non, 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 non. C'est ton père qu'on va enterrer là. C'est ta tombe, c'est tes livres.
Ok, ok, ok. On les met dans le coffre de ma voiture, ça marche?
Ça marche.
Mejta Lahadad, 2001.
Et après, vous les avez lus ces livres?
Non.
Non? Comment ça, non?
Je suis rentré dormir.
Mais après, après!
Après, j'ai enterré mon père, j'ai fait le ménage.
Et le soir venu?
Mais d'abord, le soir n'est pas venu, parce que quand je suis arrivé chez mon père, c'était presque le matin. J'ai dormi 3 heures, puis il a fallu appeler les pompes funèbres, organiser l'enterrement, et qui allait venir? Ma mère, morte. Ma femme, mon frère.
Votre frère?
C'est compliqué.
Et donc, vous êtes rentré sur Paris?
Non, je ne suis jamais retourné à Paris.
Pourquoi?
Je ne suis jamais arrivé à Paris. La nuit tombée, il pleuvait toujours. J'étais fatigué au bord de l'épuisement. Je me suis arrêté dans une station service. J'ai pris un café, je suis revenu à la voiture. La voiture était pleine de livres. On n'avait pas eu le temps de les mettre tous dans le coffre. Il y en avait sur le siège passager.
Station service, 1988. Martin prend un café épuisé. Il retourne à sa voiture, s'assit. Il fouille, cherche quelque chose. Il boit son café. Il tombe de sommeil.
J'ai pris un livre, machinalement. Je l'ai ouvert, au milieu. Ce n'était pas un livre. C'était un carnet manuscrit. Et là, je suis rentré dans l'histoire. Trésor des Saxes de Bourvil est ici.
Après un voyage de 10 ans, après une quête qui m'a mené aux confins de ce monde nouveau, je touche au but. Nous touchons au but. Les Français sont loin derrière. Les Prussiens ne savent même pas que nous sommes en Alger. Nous sommes les premiers à atteindre la fontaine de Sidi Zouaoui.
Sidi Zouaoui ?
Vous connaissez ?
Sidi Zouaoui, en Algérie ?
Vous connaissez ?
C'est un village, il y a un lac, quelques maisons.
C'est loin d'ici ?
Non, enfin 50 kilomètres.
50 kilomètres. Je peux y être en une heure ?
Pas plus.
Comment je fais pour y aller ?
Bah, vous remontez la route d'Aïn Takrout, vous passez par Benina, après c'est de la piste, hein, mais...
Mais je suis en jeep. J'y vais.
Attendez !
Quoi ?
La suite de l'histoire.
Je dois y aller. Je vous dois combien pour la chambre ? Pour le repas ?
Rien, rien. Mais la suite de l'histoire...
Je dois vraiment y aller.
S'il vous plaît, je viens avec vous.
Mais... Et votre fille ?
Jeanne ! Bah, je viens aussi !
Bien. Nous serons de retour dans 3 heures.
Jeanne, monte à l'arrière, monte dans le coffre.
Dans la jeep, Meshta Layadat, 2001.
Et après ? Après ?
Après ? Après, j'étais harponné. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce carnet ? J'ai regardé la date, 1832.
1832 ?
1832.
Mais c'est le début de l'invasion française en Algérie.
J'ai ouvert les autres livres, des carnets, tous des carnets, une vie de carnet. La même écriture, partout. Une femme, une vie entière racontée.
Comment s'appelait-elle ?
J'ai regardé les dates, à chaque début de carnet. Et j'ai trouvé le premier. Le 17 mai 1822.
On est le 17 mai ? C'était il y a 150 ans. Non, plus.
179 ans.
179 ans ? C'était encore en Algérie ?
Attendez. Je tourne à gauche, là ?
Non, tout droit.
Okay, d'accord. Qu'est-ce que je disais ?
Le premier carnet.
Ah oui, le premier carnet, oui. Alors, je l'ai pris avec moi et je suis retourné à la station-service. Je me suis pris à manger, je me suis installé et j'ai ouvert le premier carnet.
17 mai 1822. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme qui m'a donné envie d'écrire. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ici ? Après tout, cela semble évident. C'est ici que tout commence. C'est aujourd'hui, dans cette diligence...
Route de Paris, Villers-Cotterêts, 1822. Adélaïde est dans une diligence qui va vers Paris. Il pleut, il fait nuit, ou gris. Un homme est assis en face d'elle. Il a 20 ans, beau, les cheveux bouclés.
Vous allez trouver cavalier ce moyen d'entamer la conversation, mais je ne peux m'empêcher de remarquer que vous voyagez seul.
Vous êtes fin observateur.
Pardonnez-moi, c'est que je suis tellement heureux de voyager en compagnie d'une jeune femme que ma bouche parle avant même que ma tête ne lui en ait donné la permission.
Parlez, j'aime entendre.
Il est beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire.
C'est joli, mais ce n'est pas de vous.
Non.
Savinien, Cyrano de Bergerac.
Parfaitement.
Et je rajouterais que ce n'est pas... De lui non plus, car Sénèque disait déjà « Celui qui ne sait pas se taire, il ne sait pas non plus parler. »
Et La Fontaine de conclure « Il est bon de parler et meilleur de se taire. » Mais si tous font tant d'éloges du silence, pourquoi est-il si bon de parler ?
C'est un vaste sujet, monsieur, sur lequel j'ai, si vous me le permettez, une théorie que j'ai eu loisir de développer.
Ah, rien ne me ferait plus plaisir que de l'écouter.
Ma théorie est simple. La vie est un récit.
Poursuivez.
La vie est un récit et chaque vie et chaque récit sont eux-mêmes composés de plusieurs récits, d'une multitude, d'une infinité de récits. Tout est fiction.
Tout ?
Tout. Et en ce monde, celui qui détient l'information, celui qui détient les clés du récit, celui qui sait mieux que les autres raconter une histoire, devient le maître. Peu importe les titres de noblesse et les privilèges. L'homme qui raconte bien peut lever des armées et embraser des nations.
Embraser des nations.
Un jour viendra, vous verrez, où l'information sera totale et immédiate. Un jour viendra où l'être humain sera noyé par un flot incessant d'informations et de récits, car il sera relié à tous les êtres humains de la Terre.
La presse remplira bientôt cet office.
Et qui contrôlera la presse, contrôlera le monde. Pensez donc, s'il existait quelqu'un capable de raconter des histoires si extraordinaires qu'un chapitre seulement paraîtrait chaque matin,
et que ce chapitre serait si passionnant que l'on devrait acheter le journal suivant pour connaître la suite.
Et l'on serait alors lié aux nouvelles que comporterait ce journal.
Et alors on pourrait faire croire n'importe quelle ineptie aux hommes, et les hommes iraient jusqu'à prendre les armes et s'entretuer. Car lorsqu'ils veulent être libres, ils n'ont pas d'autre façon de faire entendre leur voix que de tuer et de mourir.
Vous voilà bien sombre.
C'est que je porte des siècles de douleur, et c'est un lourd fardeau. Et vous ? Qui êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Vous montez à Paris pour la première fois ?
Beaucoup de questions d'un seul coup. Eh bien, je suis, mais fort peu de choses à vrai dire, fils d'un général d'armée à la brillante carrière militaire, je ne suis qu'un petit saute-ruisseau. J'ai 20 ans et je monte à Paris pour y être clerc de notaire. Et pourquoi pas écrire moi-même un vaudeville, ou deux.
L'ambition ne vous dévore pas.
En faut-il un homme pour être heureux ?
Vous devez bien nourrir en vous au moins une passion dévastatrice.
Peut-être. J'aime, mais vous allez penser que je vous dis cela pour vous plaire. J'aime raconter des histoires.
C'est drôle, effectivement. Jeune homme, nous ne nous connaissons pas, et je puis vous affirmer sans rire ni trembler que passé cette nuit, nous ne nous reverrons jamais. Je porte une histoire que je n'ai jamais partagée avec quiconque, et qui me pèse comme un fardeau. Je vais vous la raconter. Et après vous, elle n'ira plus nulle part. Mais vous devez me jurer sur ce que vous avez de plus cher au monde, que jamais vous en écrivrez une ligne, ni n'en parlerez à une autre âme humaine.
Je serais un bien grand scélérat si je trahissais une parole donnée à une femme.
Vous le jurez donc ?
Sur ma vie, sur ma mère, sur mes futurs enfants, je vous le jure. Mais parlez, quelle est donc cette histoire ?
C'est la mienne. Je suis née le 17 mai 1792. Le 25 avril avait lieu la première exécution à la guillotine. On murmure que son invention fut financée par les ennemis de ma famille. À ma naissance, on me fit évader. Je fus remise à une nourrice et à un maître d'armes qui me portèrent à cheval jusqu'à un petit castillon caché dans les collines de la forêt ardennaise. En cas d'invasion, il était prévu de me faire passer au royaume de Prusse. Mais personne ne vint nous chercher. Je grandis dans ce château, élevé par les livres et par la nature.
Quelle est donc votre famille ?
Une famille aussi noble qu'illustre. Un nom qui aujourd'hui ne résonne plus aux oreilles des gens que dans les légendes et les chansons. Je suis Adélaïde Edmonde de Saxe de Bourvil, dernière descendante vivante des Saxe de Bourvil.
Permettez-moi d'en douter.
Doutez si vous voulez. Doutez tout votre sou, mais gardez votre langue. C'est pour moi un tel soulagement de pouvoir le dire enfin. Ma famille a vécu. Ma famille a existé. Mon père, ma mère, ma tante, mes cousins. Ils ont tous été guillotinés et jetés dans une fosse commune. Et toute trace d'eux a été détruite. Mais ils avaient vécu et préservé l'essentiel, du moins je l'espère. J'ai grandi dans ce château. J'ai lu les innombrables livres de ma famille, un patrimoine littéraire sans réelle concurrence dans le monde. Et lorsque j'ai fini de lire ces livres, je les ai relus, et relus, et relus. Mon maître d'armes est mort le premier. Ma nourrice est morte il y a 3 jours. Je l'ai enterrée au bourg le plus proche, et me voilà en route pour Paris. J'ai 30 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui commence ma vie.
Adélaïde Edmonde de Saxe de Bourvil.
Ah, ne dites plus ce nom. Lorsque je poserai le pied hors de cette voiture, je serai devenue quelqu'un d'autre. Il me faut un autre nom, monsieur le romancier. Le prénom, je le garde. C'était celui de ma mère et de la mère de ma mère. Le nom, je vous laisse l'inventer.
Il vous faut un nom simple. Un nom d'aventurière.
Oui.
Un nom anglais, peut-être ?
Non, non, non. L'Angleterre ne me tente pas. Je n'ai pas l'air d'une Anglaise.
Espagnol, alors ?
Mieux.
Ferrara, Montoya, Montes ?
Non, plus simple encore.
Antes.
Antes.
Oui, Antes. A-N-T-E, accent grave, S.
Adélaïde Antes.
Vous devriez l'écrire, vous savez, cette histoire, votre histoire.
Mon passé ne m'appartient plus.
Alors écrivez l'avenir. Écrivez-moi.
Je sais pas. Je ne peux rien vous promettre.
Ne promettez rien. Je travaille chez Maître Monsenot, rue de Wagram, à Paris. J'attendrai de vos nouvelles. Adélaïde Antès.
Et votre nom, à vous ?
Alexandre. Alexandre Dumas.
Alexandre Dumas.
Station-service, téléphone, Canada, chez Henri.
Allô ? Allô ?
Bonsoir, Henri.
Martin ?
Tu vas bien ?
Ben, putain, ouais, ça va. Ça doit faire 10 ans, mais ça va. Allô ? Allô ?
Papa est mort. Il a fait une crise cardiaque, il est mort. On m'a appelé. Je suis allé reconnaître le corps. Et je l'ai enterré.
Et pourquoi c'est toi qu'ils ont appelé ?
J'en sais rien, c'est moi, c'est tout. Il est enterré à Lynchon. Il nous lègue des dettes.
Ne vends pas les livres.
D'accord.
D'accord ?
D'accord.
Et la maison ?
On en reparlera.
On en reparlera ?
On en reparlera.
Bon, comment ça va, toi ?
On en reparlera.
Bon, ben... Je t'embrasse ?
Moi aussi. Au fait...
Ouais ?
Non, rien, c'est vraiment une connerie, mais... Il avait quel âge, Alexandre Dumas, en 1822 ?
Bah, tu me poses une colle, là !
Non, c'est parce que je lis un bouquin et...
Toi, tu lis un bouquin.
Laisse tomber.
Attends. Alors, Dumas, en 1922, il a 20 ans. C'est l'année où il monte à Paris.
Il vient d'où ?
Ville-et-Cotterêts, il me semble. Allô ?
Ouais, merci. Et juste un dernier truc, ça te dit quelque chose, Saxe de Bourville ?
Où est-ce que t'as entendu ce nom ?
Je sais pas, je l'ai entendu.
Saxe de Bourville.
Saxe de Bourville.
C'est une légende. Une grande famille, très très vieille noblesse française, qui aurait possédé une fortune gigantesque, un trésor. C'est une légende. Ils auraient supposément tous été guillotinés sous la terreur, mais on n'a aucune trace écrite de leur existence. C'est une histoire, quoi. C'est juste une histoire.
Route de Sidi Zouaoui, 2001.
Sidi Zouaoui, on est arrivé. Bon, et Dumas, elle a vraiment rencontré Dumas ?
Parce que tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, là, vous avez parlé de Dumas, mais vous aviez déjà l'intention de me raconter cette histoire ?
Alors, vous êtes toujours sur le Théâtre de la Gamelle, sur Radio Canu. Voilà, nous venons de terminer la première partie de la pièce Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik. Merci pour votre écoute. Du coup, nous laissons un petit suspense et vous pourrez retrouver les
comme aventures. Alexandre Dumas.
C'est une fiction à épisode.
Oui.
Tintin.
Tintin, tintin.
Vous pourrez retrouver Martin Martin, Alia, Jeanne, Adélaïde, Antès, Alexandre Dumas et bien d'autres personnages encore pour voyager encore plus loin dans l'histoire avec un grand H. En janvier, je l'espère.
Oh bah oui. Sûr, certain, mais on n'a pas de date.
C'est ça.
Suspense jusqu'au bout.
Et vous pourrez retrouver cette émission du coup sur le blog, site, blog, comment
le
on
blog.
Dit le blog.
Ça se dit encore.
Du Théâtre de la Gamelle. Oh là là, ça fait démodé ce mot.
Bah oui, mais c'est pas grave.
Merci à nos lecteurs et lectrices du jour, donc Jessie, merci. Pauline, Charlotte.
Merci à toi, Delphine, pour ce texte.
Ouais.
Voilà, très belle découverte. Du coup, messieurs, dames, avez-vous des actualités théâtrales, culturelles ?
Non, non, il fait froid.
Il fait culturel, froid, buvez du chocolat chaud.
Allez au théâtre, bien évidemment. Hein,
allez
et puis appelez-nous, laissez-nous un message sur Facebook, justement, s'il y a des coups de cœur que vous voulez partager aussi.
Et si vous avez envie de vivre la fête des Lumières de manière alternative, je vous conseille un petit spectacle au carré, le Théâtre du Carré 30, 12 rue Pizet, vers Hôtel de Ville. La compagnie Chienne de Vie fait un spectacle qui s'appelle Lumière, sur la vie de Louis et Auguste Lumière. Ça joue donc au Théâtre du Carré 30, du 7 au 8 décembre, à 11h, 14h30 et 16h. Pensez à réserver et venez avec vos enfants si vous en avez. Et si vous êtes des grands enfants, vous pouvez venir tout seul.
Puis à les neveux, les nièces, les cousins, les cousines.
Voilà, profitez-en. Et surtout, les horaires ne tombent pas dans la foule du 8 décembre. Ce qui ne vous empêche pas de faire les deux si vous avez envie de faire les deux.
N'hésitez pas non plus à suivre l'actualité et d'aller dans la rue pour protester contre... tout ce qui est en train de tomber sur nous depuis déjà 2 ans et demi que Macron est au pouvoir, et puis même avant. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant, notamment sur rébellion.info.
Avez-vous des choses à ajouter, messieurs, dames ?
Non, merci.
Ben non, merci à vous.
Ouais.
Eh bien, nous vous remercions pour votre écoute. Nous vous souhaitons un agréable week-end et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Il était sur son char. Il n'y a pas d'arme, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Rien d'une ardeur, noble.
Journal vivant.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.